ce soir, nous accueillons M. Jacques Fontani, qui est professeur de linguistique et de sémiotique à l'Université de Limoges, dont il est aussi le vice-président. Il dirige le Centre de recherche sémiotique dans cette même université. Il est membre de l'Institut universitaire de France. Il est le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle « Nouveaux actes sémiotiques ». Il dirige une collection complémentaire à cette revue, qui s'appelle « NAS » et qui est éditée par Poulim. Et je cite quelques ouvrages, car ça intéresse beaucoup le public, à ce qu'il paraît. « Sémiotique des passions, des états de choses aux états d'âme », publié au Seuil en 1991. « Le discours aspectualisé », publié donc chez Nas, Poulim, Benjamin en 91. « Sémiotique du visible, des mondes de lumière » au PUF en 95. « Tension et signification » chez Mardaga en 98. « Sémiotique et littérature, essais de méthode » au PUF en 99. « Sémiotique du discours » chez Poulim en 99, etc. Comme chaque soir, 50 minutes de conférence et 20 minutes des questions. Voilà.
Je demande qu'on me redemande, qu'on me redonne l'image. Voilà, maintenant que nous sommes harnachés, ah, il n'y a plus de son, si ? Très bien, parfait. Voilà, bonsoir, et j'espère que pendant ces 50 minutes, nous allons nous amuser un peu. Dans la section « Les comportements » de l'Université de tous les savoirs, il y a des hauts et des bas où c'est moi qui ne tiens pas ma tête comme il faut.
Et de trois.
Donc, dans la section comportement, la demande de l'Université de tous les savoirs est portée sur les langages visuels, pictogrammes, idéogrammes, signalétique et publicité. Et j'ai décidé de donner comme fil directeur à cette conférence la question du pouvoir créateur des signes, dans la mesure où je vais essayer de vous montrer que ce qu'on pense généralement des signes, à savoir qu'ils représentent la réalité ou qu'ils renvoient à une réalité absente, est fort discutable et qu'au contraire, ils contribuent à construire notre réalité. Bon, l'image est présente dans tous les domaines de la communication et avec une très grande diversité d'usages et de modalités d'interprétation. Cette diversité n'est pas en soi un phénomène récent, mais en revanche, le mélange des modes d'expression, images et écriture notamment, mais pas seulement, comme vous le voyez sur cette soi-disant balance de la justice qui est combinée avec plusieurs autres types de manifestations visuelles. Mais en revanche, le mélange des modes d'expression, disais-je, et même des différents usages de l'image est devenu la règle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans notre jargon, la communication multimodale. Je prendrai deux exemples pour illustrer cette communication multimodale. Deux exemples que sont les consignes de sécurité dans les avions et les interfaces graphiques que nous rencontrons chaque fois que nous allumons notre ordinateur et que nous ouvrons un logiciel. Les consignes de sécurité dans les avions, par exemple, se présentent sous la forme d'un dépliant cartonné et d'une pantomime, soit vivante, soit enregistrée sur écran qu'on projette. Sur le dépliant cartonné, on a du texte écrit, on a des images, on a des gestes, des flèches, on a des figures qui représentent des choses, un avion, une porte, d'autres qui indiquent ce qu'il faut faire sous forme écrite. Et puis, quand on regarde la pantomime, elle-même comporte deux types de gestualité, une gestualité qu'on pourrait dire descriptive, puisqu'elle montre ce qu'il faut faire avec la ceinture, avec le ballon d'oxygène en cas de problème, et puis des gestes qu'on pourrait dire indicatifs, c'est-à-dire qui donnent la direction à suivre, qui disent où trouver tel ou tel signal, où trouver tel ou tel objet à mémoriser. Le deuxième exemple, celui des interfaces graphiques, mélange, par exemple, des inscriptions écrites comme police rapide ou insertion ou format, mais aussi ce que j'appellerais des pseudo-icônes qui se donnent l'air de représenter quelque chose, comme une paire de ciseaux, par exemple, ou bien une disquette, et en fait qui renvoient à une opération à effectuer, couper ou enregistrer. C'est pour ça que je les appelle de pseudo-icônes. On trouve aussi des propriétés directement applicables, par exemple un « i », vous appuyez dessus, ça met l'italique, ou bien un « g », vous appuyez dessus, ça met le gras. Et puis alors, parfois, dans certains logiciels, je ne vais pas les dénoncer, des icônes énigmatiques, par exemple, j'ai trouvé sur un logiciel de grand usage une pointe de diamant, et il faut comprendre que c'est l'accès à la banque d'images. Allez savoir pourquoi. Mais enfin, en tout cas, voilà le mélange auquel nous avons affaire. L'hétérogénéité des messages pose un problème autrement plus compliqué que la seule interprétation de l'image prise isolément en elle-même. En effet, on n'est plus dans une interprétation de type contemplatif, comme celle d'un tableau, par exemple, ou même celle d'un film, mais dans une assignation quasi automatique d'un sens, comme dans le cas de la signalétique, par exemple, ou dans ce qu'on pourrait appeler une perception éphémère, fragmentaire, discontinue, inattentive, comme par exemple dans le cas de l'affiche publicitaire. Cette hétérogénéité en elle-même n'est pas nouvelle. On sait que les hiéroglyphes égyptiens, par exemple, évoquent tantôt une réalité à laquelle ils sont censés ressembler, tantôt une notion sans aucune analogie perceptible, tantôt ils désignent directement un son, et tantôt même, parfois, ils accompagnent un autre signe pour indiquer à quelle classe générale il appartient. Le fait nouveau ici, c'est l'élargissement de ces combinaisons, c'est leur diffusion envahissante, c'est aussi leur productivité. On en invente tous les jours, et parfois avec des résultats très surprenants, puisqu'on s'aperçoit que les images du quotidien analysent très curieusement notre réalité. Je prendrai brièvement un exemple. Vous avez tous vu dans les espaces publics de ces petits pictogrammes qui représentent un monsieur et une dame. Alors, dans certains cas, entre le monsieur et la dame, il y a une barre verticale. Dans d'autres cas, il n'y a pas de barre verticale. Et il faut comprendre, là, c'est les WC et là, c'est l'ascenseur. Donc, allez savoir comment les pictogrammes recatégorisent le monde. Définition des WC, c'est l'endroit où les messieurs et les dames vont séparément. Définition de l'ascenseur, c'est l'endroit où ils vont ensemble. Donc, à choisir. Ce que je veux dire par là, c'est que les images de notre quotidien font beaucoup plus que désigner la réalité. Elles en fournissent une interprétation parfois très surprenante qui te demande quelques calculs de sens pour arriver à savoir que dans tel endroit on fait ceci, dans tel autre chose. Donc, dans une première partie consacrée aux différents types de signes visuels que sont les icônes, les symboles, les idéogrammes, les pictogrammes, etc., je voudrais faire le point sur les classifications et vous montrer en partie en quoi elles sont intéressantes et fragiles en même temps. Avec, évidemment, et, une image, bien qu'il y a à la fois ici du visuel, de l'écrit, etc., comme programme, des réflexions sur ce qu'on appelle la modalité sémiotique, sur les différences classiques entre icônes, indices et symboles, sur les pictogrammes, les idéogrammes, et pour conclure, ce que font les images qui m'intéressent plus que toute autre chose. La modalité sémiotique, pour commencer. Les signes qu'on dit visuels sont définis par ce qu'on appelle leur modalité sémiotique, et la modalité sémiotique, c'est pour commencer le substrat matériel sur lequel ils sont inscrits, qui décide accessoirement des canaux sensoriels. Il faut toujours se rappeler que ce qu'on appelle par exemple des signes visuels ne sollicitent pas que la vue, mais peuvent solliciter aussi le sens du toucher, le sens thermique, le sens tactile, bien sûr via le canal visuel, mais ces propriétés tactiles et thermiques sont inscrites dans la matière même du substrat et sont inscrites aussi dans les couleurs. La modalité sémiotique comporte une autre propriété, un espace d'inscription. Ici, par exemple, ce plan légèrement incurvé qui est censé se plaquer sur un visage et ce qu'on appelle une syntaxe, c'est-à-dire tout simplement un principe d'association des formes sur la surface d'inscription. Ainsi, donc, ici, la syntaxe comporte une partie haute, une partie basse, un principe d'association entre deux figures dans la partie haute et un principe de disposition de la figure de la partie basse, avec une possibilité d'alternance des orientations vers le haut ou vers le bas. Et quand les figures du haut sont orientées vers le bas et la figure du bas orientée vers le haut, on sait qu'il s'agit d'un sourire. Et inversement, quand la figure du haut est orientée vers le haut et la figure du bas vers le bas, on sait que c'est l'inverse. Donc, une surface d'inscription et une syntaxe, un mode de combinaison des figures, et finalement, c'est de cela que je viens aussi vous parler. Traditionnellement aussi, on distingue, et les images obéissent aussi à ces distinctions, trois grands types de signes. C'est une distinction qui est utilisée depuis la fin du XIXe siècle, mais qui est surtout développée depuis les années 40-50. Elle vient du philosophe américain Peirce. Voilà la présentation. Il s'agit de l'icône, de l'indice et du symbole. L'icône est censée avoir un rapport d'équivalence avec ce à quoi elle renvoie, comme par exemple le dessin de la cigarette allumée dans le pictogramme de l'interdiction de fumer, qui est censé renvoyer, par ressemblance, à une cigarette allumée. L'indice, lui, renvoie par proximité ou contiguïté, par un contact nécessaire à la chose à laquelle il est censé être attaché. Par exemple, si on représente la fumée de la cigarette allumée, alors on en déduit que la cigarette est allumée. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, c'est l'application typique de la relation dite d'indice. Et le symbole, enfin, est supposé renvoyer par pure convention, comme toujours dans ce pictogramme de l'interdiction de fumer, lorsque on observe qu'il y a un rond rouge et une diagonale rouge qui là, sont là pour symboliser l'interdiction. L'icône représente, dit-on plutôt, l'indice signale, le symbole a une signification. Je vais vous montrer rapidement que ces distinctions méritent quelques nuances. Si par exemple vous regardez cette représentation de la justice, la balance, normalement, comme il s'agit d'un symbole, elle devrait être purement arbitraire, conventionnelle, n'avoir aucun rapport analogique avec ce à quoi elle renvoie, c'est-à-dire la justice. Et pourtant, dans ce symbole, il y a quelque chose qui a trait la justice elle-même, c'est l'équilibre. Équilibre, équité, voilà une notion qui est commune aux deux et par conséquent une part d'analogie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aurait une part d'analogie là où on n'aurait pas en trouvé. Vous voyez que les distinctions entre les différents types de signes sont fragiles et que, en plus, et là je voudrais rappeler le fil conducteur que j'ai choisi, il y a un présupposé dans toutes ces définitions des signes que je discuterai tout au long de la conférence. On considère généralement qu'on a affaire à un signe quand une chose, le signe lui-même, présent, tangible, est censé renvoyer à une autre chose qui ne serait pas immédiatement accessible, qui ne serait pas tangible, voire absente. Le signe serait donc signe de l'absence de la chose elle-même et de la réalité. Eh bien, c'est ce présupposé-là que je voudrais discuter, car les signes modifient, suscitent, inventent notre réalité, et bien au-delà de leur capacité imparfaite à se référer à la réalité, ils agissent sur elle. Ils agissent sur le monde, dans notre monde, ils modifient notre relation avec lui. Alors néanmoins, je vais faire un petit passage par quelques autres types de signes, les idéogrammes. L'idéogramme est une image qui se définit facilement par rapport à l'écriture alphabétique, pour commencer, celle que nous connaissons tous, puisque la lettre de l'alphabet, dans bien des cas, ne se suffit pas à elle-même pour faire un signe, c'est-à-dire un mot. Excusez-moi de la banalité, en général il en faut plusieurs pour faire un mot, alors que l'idéogramme, lui, est une figure d'écriture qui est un signe à part entière et qui se suffit à lui-même pour envoyer à une notion, un concept ou, comme on dit dans notre jargon, à un signifié. En outre, l'idéogramme fait oublier qu'il pourrait avoir une référence dans le monde naturel, c'est-à-dire une ressemblance avec quelque chose à quoi il pourrait renvoyer. Cette éventuelle valeur iconique est suspendue au profit de la signification proprement dite pour plusieurs raisons. D'abord, Tout simplement parce que les différents types de figures qui sont composées dans l'idéogramme, qu'elles soient abstraites ou concrètes, qu'elles soient représentatives ou géométriques, ne sont plus en général perceptibles, tout simplement parce qu'elles sont uniformalisées par le traitement graphique, soit du pinceau dans le cas de l'idéogramme chinois, soit du calame dans le cas de l'idéogramme ou du cunéiforme de la Méditerranée orientale. La deuxième raison, c'est que l'idéogramme se caractérise surtout par sa position dans le système. Remarquez que tout à l'heure, l'exemple du monsieur et de la dame avec une barre ou sans barre constituait déjà aussi un système, et pourtant, il s'agissait d'autre chose que d'idéogramme, j'en parlerai tout à l'heure. Ce n'est donc pas une propriété spécifique de l'idéogramme, mais pourtant, l'idéogramme la possède au premier chef. Il prend sa valeur du système à l'intérieur duquel il se trouve intégré. La troisième raison réside dans l'importance de la surface d'inscription, dont la contrainte propre définit le mode d'interprétation de l'ensemble des signes. La contrainte de la surface d'inscription, c'est par exemple la distribution des signes horizontale, verticale, de droite à gauche, de gauche à droite, ou pourquoi pas en diagonale, ou sur la totalité de la surface. Alors, je peux donner un exemple qui a l'avantage d'être un peu pittoresque et en même temps de faire référence à une autre culture. Dans la civilisation Dogon, une civilisation africaine, on pratique couramment la divination. Et la divination porte sur des signes. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on commence par définir une surface d'inscription. Donc, il s'agit de lire les traces du renard. Et à partir des traces du renard, on peut pratiquer l'art de la divination. Mais en fait, on commence par tracer sur le sol une surface d'inscription dotée de contraintes, dotée de lignes directrices, éventuellement même de cases, d'orientation. On doit lire cette surface d'inscription d'un point à un autre, etc. Une fois que la surface d'inscription est établie, on attend que le renard passe. Et quand le renard est passé, alors seulement l'ensemble des traces qu'il a laissées exclusivement à l'intérieur de cette surface d'inscription prédéfinie fait l'objet de la divination. Donc, on peut avoir là une sorte d'emblème du fonctionnement des idéogrammes. Deuxième catégorie, les pictogrammes. Alors, on dit que les pictogrammes sont, dans la définition la plus simple, des sortes d'idéogrammes qui auraient à peu près les mêmes propriétés que les idéogrammes, sauf qu'ils auraient en plus une valeur d'icône, c'est-à-dire ils fonctionneraient par ressemblance. Mais ce qui est vrai de l'icône est encore plus du pictogramme, parce que le pictogramme n'est destiné ni à une représentation descriptive, ni à une interprétation contemplative. Il ne garde en fait que quelques traits stylisés de ce à quoi il est censé ressembler. Et la ressemblance n'est plus alors décisive pour l'interprétation. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'on a besoin d'une norme. Il y a une norme ISO 7000, 7001 des pictogrammes qui indique comment il faut les représenter pour qu'ils soient ressemblants. Et vous comprenez bien qu'à partir du moment où on est obligé d'expliquer comment il faut qu'un pictogramme soit ressemblant, ça met en doute sérieusement le caractère naturel de cette ressemblance. Alors, j'ai choisi ici un exemple. À gauche, le téléphone noir est un pictogramme qui représente en tant que pictogramme un téléphone. À droite, on a affaire à un téléphone courant, peut-être pas très bien représenté, mais c'est une image de nos téléphones cellulaires ou de nos téléphones sans fil. Et pourtant, ce n'est pas l'image des téléphones que nous utilisons qui est choisie comme pictogramme, mais celle qu'on pourrait qualifier des téléphones de grand-mère ou d'arrière-grand-mère ou encore d'avant, encore que les PTT se chargent bien de les retirer là où ils se trouvent. Donc, pourquoi garde-t-on cette image d'un téléphone qui, technologiquement, n'a plus aucune réalité concrète? Tout simplement pour sa valeur distinctive, puisqu'il a un pouvoir distinctif par rapport aux autres instruments du quotidien, beaucoup plus fort que ces petits rectangles ou parallélépipèdes qui ressemblent à peu près à tout, sauf à des téléphones. J'ai pris ensuite trois exemples que je vous montre à la suite, et je reviendrai au début. Le pictogramme, alors ça c'est extrait de la norme 7000-7001, ISO 7000-7001, mais c'est moi qui les ai reproduits. Hein. Donc si vous ne les trouvez pas parfaitement conformes, c'est de ma faute, c'est pas de la faute de la norme 7000-7001. Voilà la poubelle et voilà le parc naturel protégé. Je reviens à l'escalier. Pour aucun des trois pictogrammes, la valeur iconique n'est déterminante. Pour aucun, la ressemblance avec l'objet ne suffit à l'interprétation. Alors, ce qui représente l'escalier, ici, c'est une ligne oblique, brisée. Ce qui représente la poubelle, ici, c'est un polygone ouvert. Ce qui représente le parc naturel protégé, ici, c'est rien du tout. Donc, où se trouve la ressemblance et où se trouve la portée de la ressemblance? Eh bien, je dirais qu'elle est presque secondaire, puisque dans le cas de l'escalier, il nous faut la représentation des silhouettes avec le mouvement des jambes montant ou descendant pour comprendre qu'il s'agit, à propos de cette ligne brisée oblique, d'un escalier. Dans le cas de la poubelle, il nous faut la représentation du geste de jeter pour que ce polygone, qui représente à peu près tout ce qu'on veut, sauf spécifiquement une poubelle, pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'une poubelle. Quant à celle-ci, tout ce qu'on peut en tirer du point de vue des figures qui sont censées représenter quelque chose, c'est qu'on a affaire à des entités naturelles, un arbre, un animal sauvage. Alors ensuite, il faut un deuxième calcul pour savoir qu'on se trouve dans un parc. Par métonymie, par contiguïté, on va supposer que le pictogramme envoie au lieu où ces deux figures sont supposées pouvoir se rencontrer, le cerf et l'arbre. Mais il faut encore un calcul encore plus compliqué pour savoir qu'il s'agit d'un parc protégé. On dit, bon, il y a là un pictogramme, c'est-à-dire un panneau ou une affiche qui est apposée en un lieu. Donc ce lieu est pris en charge institutionnellement par des gens qui s'en occupent. Et s'il est pris en charge institutionnellement, il est protégé. Il est inscrit quelque part dans un inventaire et il est surveillé. Donc on voit bien qu'il faut une série de calculs très complexes pour arriver à reconstituer la notion de parc naturel protégé, comme la notion de poubelle ou même la notion d'escalier. Dans tous les cas, l'interprétation du pictogramme, même quand il est normalisé, impose, je voudrais le signaler tout de suite, le passage par un acte. L'acte de jeter, l'acte de monter ou de descendre, ici l'acte de protéger. Parfois cet acte est représenté, parfois il ne l'est pas, il est implicite, il faut le calculer. Et alors le pictogramme se dessine sur le fond d'une scène, une scène virtuelle qui comprend un acte ou des actes et des rôles nécessaires à ces actes. Et au fond, l'objet qu'il est censé représenter n'est représenté qu'à travers son rôle. La poubelle, c'est le polygone qui est l'instrument pour l'acte de jeter. L'escalier, c'est la ligne montante qui est l'instrument pour l'acte de descendre ou de monter. Et le parc naturel protégé, c'est des choses représentées qui sont censées être les objets de la protection. Et finalement, ce n'est pas ceci une vraie découverte, loin de là. Je renverrai volontiers aux travaux de Laura Gourand, un préhistorien, qui, à propos de ce qu'il appelle des mythogrammes, qui a quelque chose à voir avec les pictogrammes, insiste beaucoup sur le fait qu'on a affaire à des scènes et que ce qui est représenté sur la surface des cavernes est un certain nombre de rôles et de moments des scènes, mais que pour les interpréter, il faut passer par la compréhension de la scène sous-jacente. Alors, voilà un autre pictogramme que vous connaissez, interdit de fumer. Alors, bien sûr, la cigarette allumée, eh bien, le dessin analogique d'une cigarette allumée, on la reconnaît, mais quelqu'un qui verrait dans ce pictogramme la représentation d'une cigarette allumée risquerait d'avoir des ennuis, puisque, en fait, ce à quoi renvoie ce pictogramme, ce n'est pas à l'objet cigarette, mais à l'acte de fumer. Et ce qui est barré en rouge, ce n'est pas la cigarette, mais l'acte de fumer. Si c'est l'acte qui dirige l'interprétation de l'image, les objets ou les personnages ne représentent que des rôles, c'est-à-dire des classes abstraites, ce qui fait qu'ici, la cigarette allumée vaut pour la classe générale des objets à fumer, des objets impliqués dans l'acte de fumer. Alors, ça vaut aussi bien pour la pipe, le cigare, et que sais-je encore, que je n'oserais pas citer. Donc, il est interdit d'utiliser ici un objet susceptible d'être fumé. Voilà ce à quoi renvoie ce pictogramme. Donc, le pictogramme comporte une instruction qui guide l'interprétation, et cette instruction concerne un acte. Et cette instruction inhibe la perception, en fait, de l'objet en tant que tel. Et si on s'avisait de fixer l'attention sur la représentation de l'objet en tant que tel, inversement, on inhiberait l'interprétation de l'acte et de l'action qui porte sur lui. On peut rapidement raconter une petite scène en oubliant les conventions graphiques. Ça se passe au restaurant, ça se passe dans une salle de café, les clients entrent, se dirige vers des tables, s'apprête à s'asseoir, lève les yeux, voit ce petit panonceau, se relève, vont chercher une autre table, et bientôt, dans le café, dans le restaurant, tout le monde se distribue selon deux zones différentes de la salle, ils se trient, se regroupent, et pourtant, les uns fument, les autres pas, chacun dans son coin. Mais pourtant, le pictogramme ne dit pas « si vous fumez, allez là-bas, si vous ne fumez pas, allez ici ». Le pictogramme se contente d'opposer au déplacement son interdiction. Et cet acte d'interdiction est reconverti en un principe de tri qui fonctionne dans l'espace comme donc, un système de redistribution des personnes dans la salle. Imaginons par exemple qu'à la place du pictogramme, on ait mis une représentation d'un Renoir ou d'un Courbet, que sais-je. Aussi saisissante que soit l'image du Renoir ou du Courbet, elle n'aurait eu aucun effet sur la composition de la salle, même si elle dit, même si elle fait pour chacun des choses différentes. Et cette petite scène nous dit que plus efficacement que des énoncés verbaux, des discours, le pictogramme est porteur d'un acte de langage qui définit l'usage d'un lieu, le distingue d'autres lieux, qui modèle, induit nos comportements, qui nous fait faire quelque chose, qui nous interdit d'autres choses, etc. Alors, pour faire une petite pause, je voudrais regarder avec vous une affiche, l'affiche du Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec, pour montrer tout particulièrement comment les valeurs iconiques des images sont neutralisées, puis comment les inscriptions écrites sont transformées dans des valeurs d'icônes, inversement, et enfin, je regarderai tout particulièrement les avatars typographiques de la lettre M. Alors, voilà une version un petit peu plus grande. On remarque tout de suite que les figures qui sont censées représenter des personnages sont en fait... ont perdu la plupart de leurs propriétés iconiques, sont en fait de simples plages grises, colorées, traitées en aplats. Des personnages, elles indiquent seulement le mouvement, la silhouette, la place. C'est tout. L'image stylisée devient un pictogramme, et le pictogramme se compose alors comme un texte. L'œil saisi recompose la distribution des figures dans l'espace plan, et même en plusieurs couches de profondeur, mais sans pour autant pouvoir restituer une profondeur perspective de type classique. Tout ce qu'on peut arriver à faire ici, c'est à repérer comme des sortes de plans transparents, un premier, un deuxième et un troisième derrière, même peut-être un quatrième sur lequel les inscriptions sont portées. D'un autre côté, les éléments d'écriture se comportent à l'inverse comme des images. Leur apparence visuelle, par exemple ici, suit des formes différentes. Voilà, ici elle est incurvée, là elle était rectiligne, donc elle joue graphiquement. Ils sont agencés en parallèle, ils se présentent comme un quasi-facteur rythmique dans l'image. On peut se contenter, pour illustrer le point, de regarder la lettre M, qui ici se trouve mise en commun, en quelque sorte, entre les trois noms Moulin Rouge, formant ainsi une accolade, et qui se trouve reprise par anaphore dans le deuxième Moulin Rouge, dans Mercredi et dans Bal Masqué ici. Grosso modo, on pourrait même dire que les deux personnages centraux forment comme un M aux formes épaissies, qui est la dernière anaphore du M de Moulin Rouge. Alors, vous voyez qu'ici, distinguer les valeurs idéogrammatiques, pictogrammatiques, distinguer ce qui a une valeur iconique et ce qui a une valeur symbolique ou indicielle semble de plus en plus difficile. Je crois que la question de la typologie des signes est utile, mais qu'elle semble à la fois dans l'analyse concrète, à la fois de plus en plus embrouillée et de moins en moins intéressante. Moi, la question qui me semble essentielle maintenant, c'est de comprendre ce que les images font, quels actes elles accomplissent pour nous. Alors, certes, elles représentent, elles montrent, elles racontent, mais dans les quelques exemples que j'ai pu évoquer, vous avez pu voir qu'elles prescrivent, qu'elles interdisent, et bien sûr, heureusement, de temps en temps, elles conseillent, elles dissuadent, elles avertissent. Autrement dit, les images ont un pouvoir de modification de la réalité, de notre rapport à la réalité. Les images font, nous guident, nous arrêtent, nous font bifurquer. Globalement, je dirais qu'elles font être des éléments de la réalité, qu'elles nous font faire quelque chose dans la réalité. C'est ce que je voudrais maintenant montrer concrètement à propos d'un cas particulier. Et je vais évoquer des signes qui, en principe, devraient être de peu de poids par rapport à la réalité à laquelle ils sont censés renvoyer. Je veux parler des logos, et plus précisément des logos des régions françaises. Donc on pourrait supposer que les logos n'ont pas grand-chose à apporter au poids de réalité des régions françaises qui, indubitablement, en ont un dans la réalité même. Et pourtant, pour commencer, j'annonce donc la partie avec la question de la problématisation de l'identité. Ça sera l'essentiel de ma démonstration. Il faut rappeler que les logos ont quelque chose à voir avec les signatures. Ce sont deux manières comparables d'engager une personne dans une énonciation, dans un acte de langage. Ce sont aussi deux manières comparables de référer à une identité, de renvoyer à une identité. Mais les logos ont tout de même, par rapport aux signatures, des propriétés différentes. Rappelons brièvement les propriétés d'une signature. Il s'agit d'un mode de désignation rigide de type idéographique. Pourquoi idéographique ? Parce qu'il n'est nul besoin que la signature soit lisible. Il suffit qu'elle soit reconnaissable, ce qui n'est pas la même chose, et associable immédiatement à la personne à laquelle est censée renvoyer. Il s'agit d'engager l'énonciation, l'acte de langage responsable d'une personne physique et individuelle. Et enfin, il s'agit d'authentifier l'énoncé que la signature suit et dont elle affirme la relation étroite avec un individu en chair et en os. Alors, en revanche, les logos, eux, j'en ai pris un que vous connaissez, c'est un logo d'une chaîne de télévision. Lui aussi, le logo opère par une désignation rigide, mais s'il utilise l'alphabet, il faut qu'il fonctionne de manière alphabétique. S'il utilise des formes idéographiques, il faut qu'il fonctionne de manière idéographique ou pictographique, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir reconnaître le contenu et non pas seulement renvoyer automatiquement à une personne. Quand il engage l'énonciation responsable d'une personne, il s'agit d'une personne morale, d'une personne collective, et non pas d'un individu physique. Et donc le logo a quelque chose à voir avec la construction de l'acteur collectif, de la personne collective. Et enfin, il décrit, il thématise l'identité, il ne se contente pas d'y renvoyer, il en fournit le contenu. Et j'ajouterai même, il problématise cette identité, c'est-à-dire qu'il sélectionne, il ne peut pas tout dire, mais ce qu'il sélectionne, il le met en forme comme un problème, et à ce problème, il s'efforce d'apporter une solution. Alors, pour ce qui concerne les régions françaises, lors de leur création, à la suite de la loi sur la décentralisation, elles étaient apparues d'emblée d'une grande diversité. Leur statut législatif, géographique, institutionnel était le même. Mais leur constitution avait comme point de départ des situations très différentes. Certaines régions étaient créées par reconduction simple de régions ou de provinces consacrées par l'histoire, et d'autres étaient créées grâce à des découpages et des recoupements entièrement nouveaux. Donc ces nouvelles entités, établies sur des fondements géographiques, économiques, culturels communs, n'avaient pas moins une identité à construire et à affirmer. Il ne suffisait pas de créer une entité institutionnelle, il fallait aussi susciter une identité, celle d'un sujet collectif, celle d'un sujet qui s'engage dans ses actes, dans la signification de ses actes, et donc un sujet symbolique. J'ai choisi quatre logos pour trois raisons différentes. D'abord, un premier, celui de l'Alsace, qui traite de la relation entre la région et le reste du territoire. Ensuite, deux autres, celui de la Bretagne et la région Rhône-Alpes, qui traite de la relation interne entre les départements qui composent la région. Et enfin, un quatrième, celui du Limousin, celui de ma région, qui traite de la relation entre l'identité héritée et une identité en devenir. Alors, regardons le logo de l'Alsace. Il repose sur l'identification et le traitement spécifique d'une partie, un triangle, qui est détaché d'un tout, une étoile, en forme donc d'étoile qui est complète si le triangle est rattaché et qui est incomplète si le triangle est détaché. Cette partie en question, une fois isolée, fonctionne toujours comme un triangle, mais le tout, lui, une fois amputé de ce triangle, n'est plus une étoile. On voit tout de suite le problème sous-jacent. Dès lors que la partie est identifiée et détachée, elle pourrait fonctionner de manière autonome, alors que le tout a besoin de toutes ses parties pour rester reconnaissable en tant qu'étoile. Il s'agit en quelque sorte d'une relation de nécessité, mais unilatérale. Et je ne suis pas sûr que les Alsaciens, quand ils ont choisi ce logo, en aient eu clairement conscience. Dès lors, le problème posé est celui du rattachement de la partie au tout. Alors, on peut regarder rapidement les conditions de l'identification du triangle. Il y a quatre procédés complémentaires. D'abord, il y a une solution de continuité entre le triangle et l'étoile elle-même. Ensuite, le triangle est dédoublé en deux formes, une jaune qui est en couleur chaude et qui avance, et une bleue qui est de la même couleur que l'étoile et qui est censée être le fond et l'ombre, l'ombre portée du triangle jaune. Ensuite, donc, la couleur qui tranche et qui avance par rapport au bleu, par sa luminance. Et puis enfin, une anaphore entre le triangle et la lettre A, ici indiquée, qui complète le dispositif. Donc l'identité, ici, l'identité de la région, s'affirme comme celle d'une entité reconnaissable isolément, avec une couleur propre, avec une forme propre, et comme celle d'une composante nécessaire à l'identification d'un tout, en tant que forme, l'étoile, mais aussi en tant que couleur, le bleu. Vous voyez bien que là, le lien entre ces deux affirmations, le triangle est détachable et l'étoile a besoin du triangle, en fait, traite visuellement un problème posé par l'histoire. Région frontière entre la France d'une part et l'Allemagne et l'Europe de l'autre, l'Alsace a parfois été détachée de la France. Elle est à chaque fois revenue en son sein au nom de l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi le logo affirme à la fois le caractère spécifique de la région, son caractère virtuellement détachable, et l'appartenance nécessaire à un territoire. Voilà donc tout un processus de sélection de l'ensemble de l'identité, d'une partie de cette identité, d'une problématisation et d'une proposition de solution qui est engagée dans ces quelques formes visuelles. Elle condense donc potentiellement des récits, comme je dis, des drames et des tentations, passées, peut-être futures, que sais-je. Deuxième logo, celui de la Bretagne, qui traite un autre problème. Nous abordons là une autre problématique, celle de la relation entre les parties constitutives de la région. Le logo est composé de quatre bandes qui convergent à gauche, qui divergent à droite, et les quatre bandes sont à la fois hiérarchisées, disposées symétriquement, deux vertes au milieu, bleu, et deux bleus de part et d'autre. Cette composition pose et traite deux problèmes. Le premier, la région est composée de quatre parties, mais la question est de savoir pourquoi seulement ces quatre et pourquoi quatre. Et la deuxième question qui se pose, c'est aussi, dans ce rassemblement des quatre parties, est-ce que l'identité de chacune n'est pas en dépérissement au profit de l'identité collective? Donc la solution ici proposée, à partir de ce faisceau de bandes, est de procurer une clôture à l'ensemble, ça c'est la symétrie entre les bandes bleues et les bandes vertes qui proposent une clôture, donc on sait que c'est seulement ces quatre et qu'il y a une logique interne dans la construction à quatre, et ensuite la différenciation des couleurs et des formes qui permet par combinaison de retrouver des identités spécifiques de chaque département. Donc le logo de Bretagne fonctionne comme un idéogramme qui traite une question conceptuelle, topologique, politique, etc. Grâce à un jeu de formes abstraites encore. En plus, il a évidemment une petite valeur iconique, puisque comme il s'étend vers la gauche, là il a un peu la forme du promontoire breton. Le logo de Rhône-Alpes, ensuite, choisi pour traiter le même problème la solution d'un faisceau, de bandes, comme tout à l'heure, mais sur un autre principe topologique et avec un principe supplémentaire de liage. Le faisceau de lignes disposé verticalement, en effet, s'interprète grosso modo selon le principe d'un appui architectonique des lignes obliques les unes sur les autres et globalement sur la ligne verticale centrale. Une force virtuelle, qui est une force de gravitation, vient ici naturaliser l'espace de représentation, parce que si on considère que le dispositif est stable, c'est uniquement en rapport avec cette loi naturelle implicite. En outre, à la base de ces obliques, on voit apparaître une bande horizontale incurvée qui les relie les unes aux autres, sans se confondre avec elles. C'est un principe de construction qu'en logique, on appelle un agglomérat. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une partie qui est différente de toutes les autres et qui pourtant leur sert de moment d'unité et de cohésion. La partie différente, horizontale et curviligne, est différente de toutes les autres, verticales, obliques et rectilignes. Donc l'identité ici affirmée est double. D'un côté, une identité problématique, conceptuelle, c'est-à-dire comment faire tenir ensemble plusieurs départements et provinces. Et de l'autre, une identité thématique, descriptive, celle d'un paysage qui renvoie au nom même de la région, un fleuve, la ligne horizontale, une montagne, l'ensemble des lignes obliques et verticales. Ce sont les mêmes formes graphiques et chromatiques qui traitent de ces deux dimensions de l'identité conceptuelle et problématique et l'identité thématique et descriptive. Et on voit bien que là, le logo construit l'identité et ne se contente pas de la décrire, qu'il la construit et la problématise. On pourrait même y voir quasiment une petite séquence argumentative. On pose le problème avec un paquet de lignes plurielles et de bandes en tous sens, et de toutes les couleurs, puis on propose une première solution de type conceptuel, le faisceau, l'architectonique et puis son lien horizontal, et enfin on vient le valider par une confirmation, je dirais, thématique, descriptive, la montagne et le fleuve. Alors pour finir avec les logos, celui du Limousin, je passe, qui lui a à traiter tout autre chose, puisque le Limousin a une identité, et cette identité historique n'a pas été remise en question par le découpage régional, donc elle ne peut pas tenir un discours pertinent sur sa composition, puisque rien n'a brouillé cette composition et cette identité. Elle ne peut pas non plus discourir comme l'Alsace ou comme la région centre dans son logo sur la position dans le territoire, puisqu'elle n'est ni dans une position dramatique sur les frontières, ni dans une position bien remarquable, parce qu'elle n'est pas vraiment au centre, tout en n'étant pas très loin non plus. Donc, en revanche, elle a à traiter un autre problème, qui est que, d'un côté, il y a une image héritée, et une image qui doit être transformée en valeurs actuelles, positivement. La feuille de châtaignier remplit le premier objectif, assumer l'image héritée pour une région verte et rurale, mais avec une première modification qui introduit la dualité, à savoir d'un côté à droite, la ligne de la feuille est curviligne, en quelque sorte naturelle, iconique, et à gauche, elle se fait rectiligne anguleuse, géométrique, pour renvoyer à une image de type électronique, faisant en quelque sorte un effet de technique avancée. Mais le second objectif, c'est-à-dire transformer cette identité en valeurs actuelles, et surtout représentée ici par le L rouge, par son dynamisme chromatique, puisqu'on sait depuis longtemps que le rouge est une couleur qui avance, ou du moins qui donne à l'observateur le sentiment de se diriger vers son regard. Et donc ce L rouge, qui est supposé se diriger vers le regard, a une activité en tant même que valeur chromatique. Donc le logo pose donc aussi un problème et s'efforce de le résoudre. Comment exprimer une activité transformatrice, créatrice de valeurs contemporaines, actuelles, devant les yeux du spectateur, à partir d'une image et d'un état hérité du passé? Donc là, il faut disposer sur le fond de cet état, de cette identité héritée, c'est-à-dire la feuille verte, la représentation d'un acteur dynamique, d'un acteur actif, la couleur rouge du L. Le L renvoie aussi bien à l'entité régionale Limousin que au Limousin au pluriel, c'est-à-dire les acteurs. Et une activité portée par un acteur, modifiant un état, une situation qui sert de fond, c'est le minimum nécessaire pour pouvoir parler d'une transformation et d'une activité dynamique. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de touche. On a donc affaire avec les logos à l'affirmation d'un acteur collectif, un acteur qui devient un sujet symbolique. Ensuite, on a affaire à quelque chose qui relève de l'argumentation. Comme j'ai essayé d'y insister, les logos parlent de notre histoire, de nos héritages culturels, et à ce propos, ils argumentent, ils posent des problèmes, ils proposent des solutions, qui constituent alors des modèles pour l'interprétation et la compréhension de la réalité. Les logos rendent notre réalité, la réalité économique, la réalité institutionnelle, intelligible, et on voit bien à ce moment-là pourquoi ces images-là, même si elles sont apparemment très secondaires par rapport aux réalités auxquelles elles renvoient, participent de la complexification de cette réalité et participent surtout ce processus qui permet de la rendre intelligible, qui permet de faire notre réalité quotidienne ce qu'on pourrait appeler un univers de sens. Alors, la partie suivante va être consacrée à la structuration des espaces et des lieux de vie. Je vous propose de passer une première petite séquence vidéo qui est une séquence d'un film de Godard, Passion. Non ? Je... Vous remarquerez que les déplacements se font dans des couloirs, des trouées, rectilignes. Tout à l'heure, parallèle au regard, cette fois-ci dans l'axe du regard. Et là, on va avoir un autre type d'espace que je caractérise comme un espace labyrinthe, en ce sens qu'à tout moment, vont apparaître des chemins que le parcours des personnages invente et qu'on n'avait pas aperçu avant que le personnage y passe. C'est un espace aléatoire qui ne contraint en rien le mouvement, mais qui en même temps est un espace asémantique, inintelligible. En voilà un deuxième exemple. Si on pouvait passer cet exemple. Allez-y, passez. Là, top, allez-y. Là, c'est un troisième type d'espace où vous allez voir que le mouvement est entièrement guidé par des signes qui sont placés aux zones où le mouvement doit changer de direction. C'est une main qui bouge, c'est une tête qui se tourne. Voilà, donc en principe, le mouvement va partir vers la gauche. Là, c'est un montage en parallèle de deux séquences.
Agnus Dei.
Ben, si vous avez reconnu Isabelle Huppert, c'est
Mundi.
Elle. Son ombre, oui, en tout cas.
Donna et Eis Requiem.
Agnus Dei, Vitoli speccata mundi.
Et là, on repart dans cet espace où vous allez pouvoir toujours observer des mouvements qui sont guidés. Là, on va partir vers la droite, après la main à indiquer. On va repartir vers la droite, la main l'a indiqué. Et là, c'est la main qui donne la direction, qui nous fait repartir de l'autre côté. Vous pouvez couper. Donc, les trois types d'espace sont ici un espace en couloir, un espace en labyrinthe, vous avez pu observer, et ce que j'appelle un espace signalisé. Ça, c'est l'objet de mon analyse plus précisément. Les trois types d'espace peuvent être caractérisés de la manière suivante. Dans l'un, le mouvement est déterminé et une forte contrainte pèse sur tout ce qui s'y passe. Dans les espaces tubulaire ou l'espace en couloir, comme on a vu tout à l'heure, la direction du déplacement est imposée et il n'y a pas lieu de mettre de la signalétique. Le sens est figé et même le sens est très pauvre. Dans l'espace en labyrinthe, là, le déplacement est aléatoire. C'est dans le film de Godard, en général, un espace de crise. C'est aussi l'espace du non-sens, inintelligible, où on ne peut rien prévoir. Et à tout moment, des chemins peuvent s'inventer qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de direction. En revanche, ce que j'appelle l'espace signalisé, dont vous avez vu ici une représentation, est un espace où le mouvement est entièrement libre, certes, mais où quelque chose, un ensemble de signes, indique quels sont les lieux critiques où il faut choisir une direction, où il faut changer de direction, où il faut poursuivre sa direction. Et c'est là le rôle de la signalétique. Alors, il n'y a pas de signalétique dans le film de Godard au sens où il y en a dans nos espaces quotidiens, mais c'est là le rôle que je lui attribuerai. Et il s'agit d'un ensemble d'expressions qui permettent à l'espace de dialoguer avec ses usagers ou inversement aux usagers de dialoguer avec l'espace. On dit en général que la signalétique, et je passerai rapidement maintenant sur cette question-là pour respecter les délais. On dit en général que la signalétique est quelque chose qui contraint nos parcours. Vous voyez bien sur ces trois exemples que quand il y a une véritable contrainte dans l'espace, il n'y a pas besoin de signalétique. Qu'il y a besoin de signalétique à partir du moment où l'espace est ouvert, libre, et où on a le choix entre une multitude de parcours et d'itinéraires. C'est pourquoi je considère que la signalétique est un système de dialogue entre deux acteurs. Un espace, qui est un acteur, qui interdit, qui résiste, qui encourage, qui propose, qui repousse, qui dirige, qui répartit les mouvements et les flux qui les organisent, et non pas une contrainte. La signalétique est un ensemble de signes qu'il faut prendre comme un moyen de construire nos parcours et des parcours signifiants, une sorte de grammaire minimale qui nous permet de construire le sens de nos parcours dans l'espace. Alors, en prolongement de ces observations, je voudrais indiquer comment on peut reconnaître ce processus par lequel on invente des parcours signifiants. C'est une question qui intéresse les aménageurs, les architectes, les responsables des espaces publics et commerciaux. De nombreuses études ont été faites, que ce soit dans le métro, dans les aéroports, dans les hypermarchés, pour savoir comment les acteurs dialoguaient avec ces espaces signalisés et comment ils construisaient la signification de leur parcours dans ces espaces. On s'aperçoit alors que tous ces espaces comportent ce qu'on pourrait appeler des zones critiques qui sont marquées par la signalisation et que ces zones critiques sont gérées de manière très différente. Ce sont des obstacles, ce sont des lieux de bifurcation, ce sont des intersections, des zones de ralentissement, des zones où l'attention visuelle et perceptive est sollicitée. Et ces lieux sont gérés de manière très différente par les usagers. Donc une petite typologie des usagers et surtout de la manière dont ils construisent leur parcours signifiant avec la signalétique. D'abord, l'usager peut choisir de travailler, de parcourir l'espace de manière discontinue mais rapide. Les deux propriétés essentielles sur lesquelles je m'appuierai sont la continuité et la discontinuité du parcours d'un côté, et puis la vitesse. Donc il peut choisir de parcourir de manière discontinue et rapide. C'est un parcours qui est heurté, et l'usager alors arpente, c'est-à-dire qu'il va très rapidement d'un obstacle à l'autre, sans souci de lisser les aléas de son trajet. Il s'arrête devant une inscription, puis se dépêche vers une autre, part de plus belle, etc. Il peut aussi choisir de parcourir de manière modulée, c'est-à-dire à la fois rapide, mais continue. Et il s'agit là du parcours de l'homme pressé qui anticipe, qui, tout en se pressant, prévoit les obstacles et qui s'efforce de les effacer et qui repart de plus belle sans jamais introduire de discontinuité dans son parcours. Il y a aussi un type de parcours qui est discontinu mais lent. C'est le parcours errant de celui qui déguste toutes les zones critiques, les obstacles, qui se laisse arrêter et qui flâne, qui repart, qui lit un panneau, etc. Et enfin, le quatrième style, je dirais glissé, que j'appelle celui du somnambule, met en scène un parcours ralenti mais continu, car sans jamais perdre le fil de son trajet, l'usager traverse l'espace, comme sans y prendre garde, automatiquement et sans souci de se presser. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ces différents styles de parcours, en rapport avec les zones critiques et les lieux signalisés, trahissent en fait la manière dont les usagers valorisent ou dévalorisent les zones critiques, c'est-à-dire tout concrètement comment ils accordent ou n'accordent pas de valeur à ces zones critiques. Et dans ce tableau, on peut voir le commentaire que je vous propose. Le parcours de l'arpenteur consiste à accepter simplement les zones critiques, c'est-à-dire il exprime son acceptation des résistances, il ne les anticipe pas, il ne les efface pas, il les affronte quand elles se présentent. En revanche, l'homme pressé, lui qui les anticipe et qui cherche à les effacer, exprime son refus de ces zones critiques et de ces zones de signalisation. Il les connaît, il les anticipe, il les neutralise et il s'efforce de les oublier dans son parcours. Le flâneur, lui, au contraire, s'arrête, déguste, en profite, laisse toutes ces zones critiques et ces éléments de signalisation et ces images rythmer, structurer, organiser son parcours. Quant au dernier, le somnambule, lui, tout simplement, il les ignore. Il les ignore et son parcours ne tient pas compte. Donc les aménageurs d'espace qui disposent de la signalétique doivent tenir compte de ce genre de typologie et de ce genre de, je dirais, de stratégie sémiotique, c'est-à-dire des stratégies d'usagers pour faire signifier les parcours et les espaces. Et dans ce cas tout particulièrement, on voit bien que la part qui revient aux réalités matérielles, aux signes visuels, aux pratiques sociales est extrêmement difficile à démêler. La charge de signification porte là clairement sur l'interaction entre le comportement d'un type d'acteur, l'homme, et la structure d'un autre acteur, l'espace, y compris les signes visuels qui y sont inscrits, mais pas simplement sur la signalétique prise isolément. Dernier moment, quelques remarques sur la publicité. Alors, on pense en général que la publicité, et la publicité visuelle en particulier, vante des produits qui existent déjà. Mais ça, c'est l'époque de la réclame. D'abord un produit conçu, produit, et puis ensuite, on songe à en faire la publicité. Aujourd'hui, les campagnes de communication ne sont que la partie visible de stratégies plus vastes qui commencent avec la conception même du produit ou du service. Les signes, et les signes visuels en particulier de la publicité, participent donc depuis le début de la création de réalité économique. Et je prendrai deux exemples pour terminer, dans des domaines où le caractère concret, matériel, de l'objet ne fait aucun doute. Des médicaments et d'un matelas. Alors, le médicament d'abord. C'est peut-être un peu provocateur, j'affirme pour commencer que les médicaments sont des signes. Pourquoi ? Le contenu sémantique d'un concept stratégique de communication transforme en effet une molécule obtenue dans un laboratoire pharmaceutique en un médicament, c'est-à-dire en un signe, qui est doté d'un contenu intelligible et d'une expression tangible. Le signe, la dimension sémiotique, ne sont pas ici le supplément symbolique qui permet de communiquer sur le produit, mais cela même qui le définit en tant que tel, en tant que produit. C'est cela même sans quoi on n'aurait qu'une molécule, sans valeur, et donc sans client. Du côté du médicament, par exemple, on connaît l'histoire de ces molécules chimiques qui sont inventées pour traiter un trouble et qui finissent par en traiter un autre, qui font une deuxième carrière, en quelque sorte. Par exemple, les hypotenseurs, dont la molécule, une benzodiazépine, se sont révélés capables, ultérieurement, d'agir sur des troubles de l'humeur. Et à partir de cette molécule, on a engendré toute une famille d'anxiolytiques. Concrètement, ça signifie que la molécule, la benzodiazépine, ne traite ni les maladies de la tension cardiaque, ni l'anxiété, mais qu'en tant que telle, elle n'a qu'un ensemble de propriétés chimiques qui entrent en interaction avec le corps considéré comme système chimique. La dimension sémiotique apparaît dès qu'on fait un médicament pour une affection particulière, parce qu'alors, une des propriétés chimiques est sélectionnée et à partir d'une certaine conception du trouble à traiter. Par exemple, les anxiolytiques en question sont définis à partir de l'anxiété conçue comme agitation. L'agitation étant une propriété sémantique du trouble considéré, agitation cérébrale, agitation motrice, agitation affective, toutes sont valables ici, et cette agitation, l'anxiolytique, est supposée l'abaisser ou la contrôler. Donc, on peut dire que la représentation conceptuelle du trouble dicte en quelque sorte la représentation conceptuelle du signe qu'est le médicament. On a vu aussi plus récemment un autre cas de figure, puisque un vasodilatateur qui sert à réguler la circulation sanguine et l'oxygénation de zones vascularisées pouvait être converti, vous le savez, en médicament de l'érection facile pour tous, c'est le Viagra. Et c'est exactement le même phénomène, une nouvelle carrière qui est conçue à partir de la représentation conceptuelle d'un défaut dans une pratique intime. Deuxième exemple. Voilà. Le matelas. Alors, deuxième... Oui, on essaye quand même de faire passer avec le son.
De la laine, de la soie, du coton, une finition main. Rien n'est trop beau pour les matelas Treka. Treka, rien n'est trop beau pour vos nuits.
Alors, vous avez le droit à un deuxième passage, puisque vous avez été privé du son dans le début, ce qui vous permettra d'observer ici, voilà le point de départ, allez... On y va.
De la laine, de la soie, du coton, une finition main. Rien n'est trop beau pour les matelas Treka. Treka, rien n'est trop beau pour vos nuits.
Bien, ce court film publicitaire mêle deux récits. Il y a le récit d'un sommeil et d'un réveil, celui d'une jeune femme, et le récit de la révolution nocturne de la Terre permettant de lui faire rencontrer le soleil. Le récit du sommeil et du réveil se compose d'une série d'images, vous avez vu, une tête de femme endormie, un torse de femme qui se lève, puis une femme en pied qui regarde par une fenêtre éclairée à la fin. Le récit de la révolution nocturne de la Terre commence par un semis d'étoiles, vous avez vu cette masse de la nuit étoilée, continue sous la forme d'une rotation à 180 degrés, alors vous n'avez pas pu mesurer, mais moi je l'ai fait, de la tête de la femme et du matelas qui tourne d'une image à l'autre, et se termine avec l'illumination de la fenêtre, puisque là, la Terre a rencontré le soleil. Enfin, du moins, cette face de la Terre-là a rencontré le soleil. Les deux récits sont étroitement associés car la révolution nocturne s'exprime par la rotation de la dormeuse avant qu'elle se réveille et les deux parcours se rejoignent finalement au moment du réveil pour constituer ce que j'appellerais un espace de représentation réaliste avec une profondeur perspective, alors qu'auparavant, les deux récits avaient chacun un type d'espace très différent, puisque pour le récit de la révolution nocturne de la Terre, l'espace, vous l'avez vu, était des successions de couches qui glissaient les unes par rapport aux autres, qui étaient mobiles les unes par rapport aux autres. Pardon, c'est le contraire. Le récit du réveil et du sommeil, une succession de couches superposées, et pour ce qui concerne la révolution de la Terre, une profondeur à l'infini qui commence par les étoiles, la Voie lactée, et qui se termine par le soleil à la fenêtre. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces deux types d'espaces réunis, qui sont très proches de la réalité auquel est censé renvoyer un matelas, hein, puisque ça se passe la nuit, on y dort, la Terre tourne, le soleil s'est couché et il se lève, vont en inventer un troisième, qui lui va être la charge sémantique spécifique du produit proposé. C'est-à-dire, à partir de la combinaison des deux premiers, on opère la production d'un troisième qui est entièrement nouveau. C'est là où il y a création et invention. Ce troisième récit, je dirais que c'est celui de l'alliance mythique entre la matière et la lumière. Parce que vous avez bien vu qu'on a un ensemble de matières qui apparaissent, des branchages, des végétaux, des voiles ondulants, des draps, des voiles à la fenêtre, qui sont tous des matières qui sont censées capter, retenir, laisser passer, renvoyer, refléter de la lumière. Par ailleurs, il n'est pas étranger non plus au problème que toutes les matières qui sont évoquées, alors je ne sais pas, vous avez fait attention peut-être à ce qui se disait, en tout cas à ce que vous voyez, ces matières sont celles mêmes qui composent le matelas, de la laine, du coton, etc. Et c'est donc la matière même du coton, pardon, du matelas, qui est supposée être ici l'opérateur de capture, de modification, de transformation de la lumière naturelle. Et quelle est cette transformation? Eh bien, on le voit bien. Au départ, un espace à l'infini, la lumière cosmique, ou la nuit, pour ce qui concerne le sommeil. À la sortie, à la fin du film, un espace tridimensionnel avec de l'éclairage, et pas simplement de la lumière captive dans des matières, une lumière qui traverse un espace à trois dimensions, un espace habitable, vivable et convivial. Donc, on voit bien dans ce cas-là que le matelas est un opérateur d'un mythe, celui de la collaboration, celui de l'invention d'un espace quotidien habitable par la collaboration entre la matière et la lumière. Alors évidemment, le temps manque, il est même dépassé, pour entrer dans le détail. Mais vous voyez bien que quelque chose ici a été créé, qui n'était pas là avant, et ce quelque chose est bien plus qu'un signe au sens ordinaire, c'est la valeur même de l'objet. C'est la valeur de cette matière constitutive de l'objet qui fait que ce matelas n'est plus simplement un matelas, mais un tréka, enfin en tout cas, un produit commercialisable, désirable, différent, etc. Le produit ici ne se conforme pas avec l'objet, il est devenu un objet de valeur, un objet investi de sens et qui a changé de statut de réalité. Donc, je conclurai très brièvement pour dire, voilà, c'est ce que je voulais montrer. Il n'y a pas d'abord la réalité et ensuite les signes qui y renvoient ou qui la représentent. Il n'y a pas d'abord les choses et ensuite des images qui sont là pour tenir lieu des choses. Mais il y a une interaction permanente, constante et, il faut bien le dire, à certains égards fascinante entre les deux. Et même parfois, il y a des signes, et en particulier des signes visuels, vous le voyez, qui invente, qui crée le contenu des réalités les plus concrètes, au point que c'est même pour cela que nous les recherchons et les désirons souvent aussi fortement. Merci.
Bien, nous remercions Monsieur Jacques Fontani pour cette remarquable conférence. Hélas, il n'y aura que 10 minutes pour les questions. Je vous prierai de les poser très rapidement, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir monsieur. Je vais être très rapide. Simplement, j'ai ramené avec moi mes cours de philo qui datent de la terminale il y a plus d'un quart de siècle. Et je vais vous demander une chose. Quelle différence et pourquoi le langage, le signe phonétique est-il plus abstrait que le signe idéogrammique, enfin, l'idéo. Je suis nul en philo, vous savez.
Non, mais c'est... Ah, écoutez, le signe alphabétique est peut-être pas plus abstrait, mais en tout cas forcément moins tangible, parce qu'il renvoie à une entité qui, pour nous, est insaisissable, qui est la fonction d'un son. Donc, la notion de fonction d'un son est assez difficile à saisir. C'est d'ailleurs ce qui fait le caractère étonnant et remarquable de l'invention des alphabets, c'est que des civilisations qui n'avaient pas de grammaire ou de linguistique constituée, ou du moins pas à la manière dont nous le pensons aujourd'hui, ont fait cette analyse de la fonction des sons. Alors, dire que l'idéogramme à côté, lui, est forcément moins abstrait, ce n'est pas entièrement vrai, parce qu'il y a des idéogrammes qui renvoient effectivement à des choses du monde, hein, à un soleil, par exemple, ou à un roi, etc. Donc des choses que l'on peut identifier comme des choses du monde. Mais il y a aussi des idéogrammes qui renvoient à des notions abstraites. On peut imaginer un idéogramme qui renverrait à la souveraineté, par exemple, au lieu de renvoyer au roi. Ou bien encore un idéogramme qui renverrait simplement à une classe d'objets très abstraite, disant, voilà, je mets cet idéogramme-là pour dire que celui qui est au-dessous désigne un animal. Bon, alors que celui qui est au-dessous, avec une autre combinaison, pourrait désigner autre chose. Donc voilà, un idéogramme qui est là pour dire catégorie animale ou catégorie chose mécanique, etc. Donc les idéogrammes ne sont pas tous si abstraits que cela. En revanche, ce qui est clair, c'est que la structure de l'alphabet et son principe imposent une analyse abstraite des fonctions sonores du langage.
S'il vous plaît, il y a d'autres questions.
Le signe phonétique est plus abstrait en ce sens qu'il ne décrit rien. C'est-à-dire que sa forme visuelle ne renvoie à rien de reconnaissable. Mais encore que ceci soit discuté aujourd'hui par certains spécialistes de l'écriture. Ça, c'est une autre affaire.
Monsieur, là.
Là-bas, il y a une demande.
Bonsoir. Donc, si j'ai bien compris votre exposé, on baigne dans un monde de signes. On va, j'ai l'impression, vers une mondialisation des signes, une utilisation de plus en plus universelle. Est-ce que cela va se traduire par un appauvrissement du sens des signes ? Y a-t-il des risques ?
Écoutez, je ne sais pas s'il y a des risques d'appauvrissement. Dans les exemples que j'ai montrés, j'ai essayé de vous montrer au contraire que peut-être il y avait une grande richesse de calcul de sens et d'interprétation dans tous ces signes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, là qu'on peut affirmer sans faire de prophétie bonne ou mauvaise, mais par simple observation, c'est que l'internationalisation de la communication développe le caractère multimodal. C'est-à-dire développe les combinaisons entre des formes d'écriture, des formes iconiques, des images, du texte, etc. C'est un mouvement qui, je crois, est de plus en plus fort, tout simplement parce que c'est à travers ce mélange de toutes les formes possibles qu'on arrive à une communication grosso modo traductible d'une culture à l'autre. Encore que, il y a encore bien des problèmes. Mais, par exemple, les normes des pictogrammes sont des normes internationales qui définissent toujours deux niveaux. Il y a le niveau conceptuel du pictogramme qui doit être commun dans sa charte graphique à l'ensemble des réalisations internationales. Et puis, il y a quelques modèles qui peuvent être adaptés pour chaque pictogramme d'une culture à l'autre. Mais on voit bien que le pictogramme étant lui-même un signe composite, une structure composite de plusieurs modalités qui sont l'écriture, qui sont de l'image, qui sont du symbole graphique, on voit bien que c'est un mode de communication qui se développe à cause de l'internationalisation des communications. Alors, on peut toujours craindre que quand on internationalise, ou en tout cas quand on généralise un mode de communication, les particularités culturelles ou les spécificités culturelles se neutralisent elles-mêmes. Moi, je crois, je dirais au contraire, à la complexification du problème. C'est-à-dire, au fur et à mesure où on internationalise, on est obligé de compliquer la structure sémiotique des signes pour qu'ils puissent être interprétés plus simplement. C'est peut-être un paradoxe, mais je ne crois pas à l'appauvrissement de ce point de vue-là. Je ne crois pas non plus que l'image dans sa valeur iconique est une valeur universelle. Je crois vous avoir assez montré que cette valeur iconique connaissait de sérieuses limites, et pas seulement culturelles. Voir par exemple l'exemple par lequel j'ai commencé, le monsieur et la dame.
Il n'y a plus de questions ?
Oui. Oui, allô ?
Oui, allô, allô.
La publicité pour Treka, elle me semble être un peu vieille.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une évolution du codage ? Parce que maintenant, je pense que cette publicité ne serait pas porteuse pour le. Elle ne serait pas efficace, je pense. Elle est un peu trop naïve pour les critères actuels. Est-ce qu'il y a donc une évolution et dans un sens de plus en plus dur des pubs, et de plus en plus aller à l'essentiel et de plus en plus un peu violent aussi.
Bon, il y a, je crois, une évolution du contenu des publicités en rapport avec l'évolution du genre général dont elles sont un des éléments, à savoir le genre cinématographique ou film de télévision, qui évolue vers plus de dureté, plus de violence, etc. Mais il y a aussi une autre forme d'évolution. Quand on compare les films publicitaires sur 30 ans, on s'aperçoit que les films d'il y a 30 ans comportent peu de plans, sont relativement lents, et que les films d'aujourd'hui comportent un grand nombre de plans et sont montés de manière très rapide. En d'autres termes, le spectateur d'il y a 30 ans aurait grand peine à pouvoir simplement comprendre un film publicitaire d'aujourd'hui, plus ou moins certains. Tout simplement parce que là, il y a une... Alors, je ne sais pas si on peut parler de brutalité, mais en tout cas, il y a un montage qui est presque proche de la perception subliminale et qui, en tout cas, agit beaucoup plus directement sur le corps et nos capacités corporelles à saisir en rythme l'image que sur notre capacité à interpréter, à calculer du sens, je dirais, de manière cognitive. Bon, ça, c'est une autre évolution. Je ne sais pas si cette publicité ne marcherait pas aujourd'hui. Il est vrai que le même matelas a un autre spot publicitaire aujourd'hui. Moi, j'ai préféré celui-là parce que j'avais... envie de vous parler de l'invention d'un récit mythique.
Oui, une question.
Oui, et une autre derrière.
Oui. Est-ce que la perception des logos n'obéit pas justement à des impressions subliminales ? Parce que ce que vous avez analysé dans les logos que vous nous avez donnés, c'est extraordinaire, mais quand on les voit, on ne peut pas percevoir tout ça. Et pourtant, on est impressionné souvent.
Alors, il y a deux problèmes dans votre question. Le premier, c'est de savoir est-ce que ce que je fais dire à l'image par une méthode d'analyse était explicitement voulu par ceux qui l'ont construite. Ça, c'est un premier problème. Ce problème qu'on se pose toujours quand on analyse quelque chose et qui est un problème justifié, enfin, qui est une question tout à fait justifiée. Le deuxième, c'est de savoir dans quelles conditions on perçoit les logos. Je vais commencer par le deuxième, c'est le plus facile. C'est vrai qu'on ne passe pas son temps à regarder un logo, sauf quand on est un sémiologue et qu'on en fait profession. Bien. Mais ce sont des images qui imprègnent notre regard par répétition. Par définition, un logo, comme on dit, se décline. Il doit être partout où l'entité économique ou institutionnelle est impliquée. Le courrier... Toute communication, tous les moyens de communication, tous les bâtiments, tous les objets, tous les conditionnements, les pactages, etc., doivent porter ce logo. Donc, si ce n'est pas par contemplation dans le temps, c'est au moins par répétition que nous imprégnons du détail de ces formes. Alors, l'autre aspect, c'est de savoir si l'analyste découvre ce que le concepteur a voulu mettre dans l'image. Je vais vous dire, il y a des gens, pas moi, mais d'autres, qui vivent de l'analyse après coup de communication qui ont déjà été conçus. Donc je vais presque vous faire une réponse cynique. S'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, des gens qui dansent le métier, c'est que ça a une pertinence. Quelle est la pertinence? C'est que le problème est toujours celui de la superposition ou de la non-superposition entre ce qu'on pourrait appeler l'image et le concept projeté et l'image et le concept induit. L'image et le concept projeté sont définis par un cahier des charges de la structure de communication d'une entreprise ou d'une agence. Puis ensuite, il y a des concepteurs, des créatifs qui le mettent en œuvre. Mais ce qu'ils mettent en œuvre induit des effets qui ne sont pas forcément cohérents avec ce qui est projeté. Donc, je dirais que c'est presque nécessaire que de faire régulièrement l'analyse de ce qui est induit pour le confronter avec ce qui est projeté. Et même d'en faire régulièrement à plusieurs moments différents, puisque ce qu'on relève et ce que l'on perçoit change d'une époque à l'autre. Je suis persuadé, par exemple, que si le conseil régional de Limousin revoyait ou pouvait revoir, parce que c'est extrêmement difficile stratégiquement de changer un logo, pouvait revoir son logo, il s'apercevrait qu'aujourd'hui, les écrans électroniques ont évolué de telle manière que les images ne comportent plus ces décrochages-là, comme il a été reproduit sur le logo. Alors, je sais bien que ce qui compte, c'est la valeur distinctive, c'est la raison pour laquelle on choisissait le vieux téléphone plutôt que le nouveau téléphone pour faire un pictogramme, et c'est la même raison pour ce logo-là. Mais il est nécessaire de faire régulièrement des analyses d'images induites, et auprès du public en particulier, tout simplement, par exemple, là, pour savoir si l'image dentelée veut dire encore quelque chose pour les jeunes d'aujourd'hui ou les jeunes de dans 20 ans, hein, qui, en principe, devront avoir affaire à des images électroniques qui n'auront plus rien de dentelé, en principe.
Une dernière question, toute dernière.
Oui, on m'entend ? Nous avons fait, monsieur, avec vous, et je vous en remercie, nous en remercions tous, une visite guidée dans cette forêt extraordinaire des Signes, qui est une forêt obscure que vous nous avez éclairée. J'ai été quand même frappé, je vais vite, j'aimerais avoir le temps pour développer, j'ai été frappé du fait que dans cette forêt obscure, à aucun moment, vous ne recourez à une lumière qui pourtant y luit et qui peut-être est-elle également créatrice de réalité, comme vous le dites. Et c'est la lumière esthétique, la catégorie du beau. Or, à l'évidence, prenons le cas du logo, je ne dis pas que quand on conçoit un logo, la priorité, ce soit qu'il soit beau, mais néanmoins, on évite qu'il soit laid. Et à l'opposé, lorsque l'on considère le lien entre la beauté et l'économie et qu'on pense au design, il est bien clair que là aussi, la beauté parle. La beauté est créatrice de réalité. Ma question est donc, est-ce que vous avez laissé dans l'ombre cet éclairage possible ? Parce que peut-être, comme pour le son, la sémiotique n'est pas pourvue des outils conceptuels qui permettraient d'avancer dans ce domaine. Ou y a-t-il d'autres raisons, selon vous ?
Il y a plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que le corpus que j'avais choisi en rapport avec le découpage de ces conférences qui avait trait aux idéogrammes, pictogrammes, à la signalétique, se prête beaucoup moins que d'autres à des considérations esthétiques. La deuxième, c'est que néanmoins, vous avez raison, sur certains éléments du corpus que j'ai choisi, on pourrait faire des considérations esthétiques, mais j'ai choisi de n'en faire aucune, et non pas parce que la sémiotique n'a aucun intérêt à la chose, parce qu'il fallait trier, il fallait choisir. Alors, ceci dit, il est tout à fait possible de voir dans mes propos où pourraient s'accrocher les considérations esthétiques, à partir d'une définition simple, discutable, hein, mais d'une définition simple de l'effet esthétique, à savoir la perception de la valeur directement par les sens, qui procure en retour une émotion. Et non pas la perception de la valeur par un calcul cognitif, complexe, etc. Donc là, par exemple, quand on a affaire à un logo où la notion d'activité et de dynamisme, au lieu de passer par un raisonnement, une démonstration, une argumentation, passe tout simplement par une lettre rouge qui avance crûment par contraste sur un fond vert, la valeur qui est ici à repérer passe directement par les sens. Alors je ne suis pas sûr qu'elle aille jusqu'à procurer une émotion. J'en doute même, puisque le corpus ne s'y prête pas. En revanche, vous avez un autre cas de figure, celui de l'affiche de Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec, où on voit bien que ce qui est recherché, c'est le brouillage des typologies de signes, sans que Toulouse-Lautrec lui-même parte de typologie de signes. Mais l'homogénéisation entre de l'écriture, du mouvement, des images, etc. Et que pour faire cela, c'est-à-dire à la fois représenter une scène et en même temps la traiter comme, je dirais, du texte écrit sur une surface lisible, il transforme l'espace perceptif en profondeur en trois couches d'écran transparent, comme j'essayais de le montrer tout à l'heure. Alors là, il y a une perception directe du processus en cours dans cette image, donc de la valeur ou des valeurs que le dessinateur s'efforce de nous transmettre, de nous faire partager, et une perception directe par les sens, c'est-à-dire par l'incapacité que nous avons à construire une profondeur continue et la nécessité visuelle, cet inconfort qui nous oblige à dépasser le simple plan, mais sans aller pourtant dans une profondeur creusée, en nous limitant à trois plans. Alors là, y a-t-il émotion en retour ? Ça dépend, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, pour résumer, et je crois qu'il est temps, merci, pour résumer sur cette réponse, je dirais que le point d'ancrage de l'esthétique, c'est la perception sensible, le rapport sensible avec la valeur. Donc, je n'ai pas parlé du rapport sensible, je n'ai pas développé là-dessus, je me suis contenté de dégager le sens et la valeur dans les images. À vous de faire le complément.
Merci.